11h, très précise, sur Radio Campus Tour. Vous écoutez La Méridienne sur le 99.5 FM. Aujourd'hui, dans cette Méridienne, nous allons parler de santé mentale. Et mon invité, c'est le docteur Lina Chamy. Bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Lina Chamy, vous êtes psychiatre et vous travaillez au Centre Régional du Psychotraumatisme, le CRP. Alors, avant de vous donner la parole pour vous présenter à nos invités, je salue également Kessia. Bonjour Kessia.
Bonjour.
Stagiaire de 3e. C'est ça ?
Oui.
Voilà, donc qui est avec nous toute la semaine et qui assiste aussi à cette émission. Donc, je reviens vers mon invité, le docteur Lina Chamy. Alors, est-ce que vous voudriez nous définir ce qu'on entend par la psychiatrie et la santé mentale ? Parce qu'il y a un raccourci qui est fait souvent encore aujourd'hui, c'est de dire la psychiatrie, c'est pour les fous.
Oui, alors c'est important, je crois, de différencier la santé mentale et la psychiatrie, puisqu'en fait, la psychiatrie, c'est un des domaines qui s'intéresse à la santé mentale. Autour de la santé mentale, beaucoup de professionnels, d'experts et aussi d'expériences de patients gravitent et contribuent à un savoir collectif. Je prends à titre d'exemple dans la filière médicale et paramédicale, nous avons le médecin psychiatre, mais aussi le médecin généraliste qui peut s'occuper de gens qui souffrent de troubles psychiatriques. Nous avons les infirmiers en pratique avancée, les aides-soignants, les psychologues, les art-thérapeutes, les ergothérapeutes. Il y a tout un tas de professionnels qui gravitent autour de la santé mentale. Et la santé mentale, c'est une définition beaucoup plus large que celle qu'on peut nous apposer aux pathologies psychiatriques, puisque quand on s'intéresse à ce que l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, donne comme définition, on voit bien que la santé mentale, elle repose sur différents éléments de la vie du sujet, mais elle permet également, au-delà de se sentir bien sur le plan psychique, elle permet à l'individu de se réaliser, d'avoir un potentiel, de pouvoir contribuer, travailler, avoir une vie de famille, pouvoir rayonner en quelque sorte. Et voilà la différence fondamentale entre la santé mentale et le psychiatre qui, lui, est un acteur de la santé mentale.
Alors, vous mentionnez, Lina Chamy, des éléments qui entrent en ligne de compte pour définir la santé mentale. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Oui, dans la santé mentale, il faut prendre en considération tous les piliers en fait des besoins des personnes. Donc c'est la fameuse pyramide de Maslow qu'on connaît, mais également aussi l'environnement du sujet, tout ce qui va venir interagir avec son bien-être physique et psychique. Et la santé physique en fait partie justement, donc on parle de bien-être physique, mais aussi les conditions matérielles, les conditions financières, l'entourage, la famille, la société, le travail. C'est-à-dire que on peut dire difficilement à quelqu'un d'aller prendre en charge sa santé mentale auprès d'un professionnel en excluant en fait tous ces facteurs qui contribuent ou non à une bonne santé psychique. Donc c'est pour ça que la question de la santé mentale se réfléchit à l'échelle collective, sociale, politique, culturelle. Et je pense effectivement que c'est en ayant cette vision, ce dézoomage, qu'on peut vraiment parler d'une santé mentale prise en compte dans sa globalité.
Donc ça veut dire que pour accompagner une personne qui en a besoin, vous prenez en compte la personne et tout son contexte, tout le autour.
Oui, c'est nécessaire. Alors ça peut être compliqué dans les faits, mais c'est nécessaire effectivement d'aller questionner le sujet déjà sur son mode de vie, sur les ressources qu'il a autour de lui, sur l'entourage, hein, s'il est sain ou qu'il n'est pas aidant, comment ça se passe au travail, comment ça se passe dans sa vie quotidienne, et puis le questionner sur son histoire personnelle. Donc effectivement, il y a différents facteurs à prendre en compte. Et en tant que psychiatre, ce qui est important aussi, c'est d'être connecté à l'actualité et savoir ce qui se passe en fait, pour pouvoir répondre aussi aux angoisses des patients, à leurs préoccupations du quotidien, à des choses qui touchent l'époque, à l'époque que l'on traverse. On peut parler par exemple de l'éco-anxiété, c'est quand même assez représentatif de ce que je dis, c'est que il y a aujourd'hui une réalité qui est liée au réchauffement climatique avec toutes les conséquences prévisibles. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des jeunes patients qui sont très concernés par la question, qui ont des angoisses nourries par cette réalité-là. Mais on peut aller dans un autre contexte historique ou sociologique et faire face effectivement à d'autres types d'angoisses. Donc le psychiatre, pour être un bon médecin, doit aussi être à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Je peux aussi citer ce qui s'est passé avec le procès des viols de Mazan. c'est important de savoir ce qui se passe et ce qui se dit dans une cour d'assises pour que lorsqu'on prend en charge une patiente victime ou un patient victime qui écoute ce qui se dit dans les médias en cour d'assises, qu'on puisse accompagner sa réflexion et peut-être même parfois son effroi face à ce qui a pu se dire lors de la couverture médiatique de ces procès.
Donc là, vous nous expliquez que certaines personnes souffrent d'éco-anxiété, vont mal pour diverses raisons, parce qu'elles sont exposées à des situations particulières. Et alors, pour évacuer tout de suite la question de la folie, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ça ? Parce qu'on associe souvent la psychiatrie, le psychiatre, c'est parce qu'on est fou.
Oui, alors ça, c'est un concept qui est très lié aussi à notre histoire, hein, et à l'histoire de la psychiatrie, et comment, en fait... Au départ, les gens qui souffraient de ces pathologies, qui n'étaient pas nommées telles quelles, ont été isolés, placés dans des asiles et effectivement définis comme fous ou en tout cas en rupture avec la réalité des autres. Et puis finalement, au fur et à mesure que les sciences autour de la psychiatrie et notamment autour des médicaments ont évolué, on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment des degrés différents dans la maladie, mais qu'on pouvait aussi les classifier et les traiter, les accompagner. Et aujourd'hui, le concept de fou, effectivement, je pense, est à reléguer au second plan, même s'il ne faut pas être dans le déni de cette définition, puisqu'elle vient traduire encore nos représentations, nos croyances, nos stigmatisations, et qu'il faut pouvoir y répondre. Mais aujourd'hui, effectivement, on ne parle plus de folie, on parle de maladie psychiatrique, puisque, je le rappelle, la psychiatrie est une discipline médicale, on a fait des études de médecine avant d'arriver à se spécialiser à cette spécialité. Et on parle de maladie, de pathologie psychiatrique, mais on ne peut pas non plus aussi rester cantonné à une lecture pathologisante des troubles de nos patients. Parce qu'il y a plein de choses, comme je disais, qui ne dépendent pas que de la maladie, du siège organique de la maladie, mais aussi de beaucoup de choses qui se passent autour de soi. Et que poser des étiquettes sur un patient, c'est aussi peut-être le condamner à se sentir représenté, vu comme une entité diagnostique et pas comme un individu, chose qui est pourtant fondamentale dans le soin psychique.
Alors, il existe, une collection, un dictionnaire d'étiquettes pour les psychiatres, le DSM. À quoi ça sert ce dictionnaire ?
Alors, ce dictionnaire, cette classification des maladies mentales qui est américaine, elle permet quand même de venir attester qu'il y a des pathologies psychiatriques qui ont été étudiées et qu'il y a des critères diagnostiques qui sont assez précis, avec des conduites à tenir qui sont prouvées au plan scientifique. C'est un référentiel. Disons que c'est ce qui va guider le psychiatre dans sa démarche diagnostique et thérapeutique, mais ce n'est pas parole d'évangile. C'est-à-dire qu'il faut être capable, derrière les troubles et la souffrance manifeste du patient, pouvoir écouter aussi sa singularité, ce qui fait la particularité de sa pathologie, de l'histoire de sa maladie aussi, dans quel contexte elle est survenue, les parts héréditaires aussi de cette maladie. Donc, comme toute profession médicale, toute discipline médicale, nous avons ces référentiels, nous avons ces dictionnaires en quelque sorte qui classifient les maladies. Mais l'objectif, c'est de ne pas rester cantonné à cette lecture. Et surtout, en fait, ça va nous aider dans notre discipline médicale pour des raisons de classification, de codification à l'hôpital, de poser des diagnostics qui, en fait, sont une obligation imposée aux médecins aujourd'hui de codifier les troubles qu'ils constatent. Mais il faut savoir dépasser effectivement cette classification et pouvoir l'adapter à chaque sujet.
Donc ça, c'est des indices, mais c'est, disons que le gros de votre travail, c'est tout le reste.
Oui, tout à fait. C'est tout ce qui va avec. Et effectivement, une fois passé le cap du diagnostic posé, et encore, parce que des fois, on ne pose pas de diagnostic, il faut laisser passer un peu de temps pour voir le patient, questionner son entourage, pas mal de choses à mettre en place. Hein. Mais une fois que le diagnostic est posé, ça ne résout pas le problème, justement. C'est là où on entre un peu en scène, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour accompagner le patient, au-delà de la question du traitement que je peux lui proposer, comment je peux construire un peu des soins sur mesure et comment je peux l'accompagner effectivement dans des phases complexes de cette maladie, puisqu'elle va beaucoup aussi interagir avec des événements de vie qui sont indépendants parfois de la volonté du patient, ou alors des événements de vie heureux comme une naissance, un mariage, voilà, toutes les choses qu'un individu peut traverser et qui peuvent venir fragiliser son état de santé psychique. C'est des choses à prendre en considération. Donc, en fait, dans le soin psychiatrique, on est dans le soin de l'accompagnement.
Et alors, Lina Chamy, vous êtes médecin et vous avez choisi de devenir psychiatre. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de spécialité ?
C'est une longue histoire. Il y a différentes choses qui l'expliquent. Déjà, la première chose, je crois que ça a été mon coup de cœur pour la sémiologie psychiatrique. Ça, c'est quelque chose que je ne saurais expliquer, mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à apprendre les classifications des pathologies, comment elles se manifestent, les symptômes, et puis cet engouement a été d'autant plus important quand j'ai rencontré vraiment sur le terrain les patients et que j'ai vu à quoi correspondaient un peu toutes ces descriptions qui peuvent paraître un peu obscur. Quand on lit par exemple idée délirante, on ne sait pas trop ce que c'est jusqu'au jour où on voit un patient et on comprend. Il y a certainement aussi le fait que la psychiatrie, c'est une discipline qui est vraiment connectée à ce qui se passe autour, connectée à l'actualité, aux faits de société, à l'histoire, à la culture, beaucoup de choses en fait qui viennent interagir avec cette discipline, puis tout ce qui est technologie aussi, nouvelles découvertes, la recherche, la science. Donc c'est une discipline qui se renouvelle énormément, qui se questionne énormément, et je pense que c'est quelque chose que j'apprécie dans cette profession, c'est qu'elle appelle à l'humilité, et puis elle vient nous raconter des histoires humaines qui à chaque fois viennent nous faire reconsidérer nos certitudes. Et j'aime la psychiatrie dans le sens où c'est une porte d'ouverture à tout ce qui se passe autour de soi. On n'est pas tout seul dans son bureau. Alors normalement, on ne devrait pas être tout seul dans son bureau. On est dans la connexion. Et puis le travail d'équipe aussi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ensuite, je crois qu'il y a aussi mon histoire personnelle, quelque chose d'un peu inconscient qui m'a menée vers la santé mentale, puisque de par l'histoire de mon père qui est un réfugié syrien, je pense que très tôt j'ai été exposée un peu à des discours de ce que c'est que le traumatisme intergénérationnel et de l'impact que ça peut avoir sur les générations d'après, et puis la composante aussi culturelle, dans le sens où il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mon entourage, qui sont très défiants par rapport à la psychiatrie, qui la voient un peu comme une science profane qui veut le mal des gens en l'opposant un petit peu à tout ce qui est rites et traditions pseudo-médicales religieuses, et qui sont un peu confrontées à l'opposé de la science psychiatrique. Donc j'avais envie de créer ce pont aussi avec la communauté, de dire la santé mentale, ça nous concerne tous, les rituels religieux sont tout aussi importants, mais il faut peut-être aussi faire confiance à ce que la médecine psychiatrique peut apporter.
En tout cas, ça, c'est une grande chance, j'imagine, d'avoir toutes ces cultures différentes pour adapter vos soins, pour comprendre aussi d'où viennent vos patients, ce qui les habite, ce qui les fait mettre en mouvement ou pas. Ça doit être une grande richesse.
Alors, oui, effectivement, moi je pense que au-delà de l'aspect de comprendre en fait la culture de l'autre, c'est plutôt de se dire je ne comprends pas, je ne peux peut-être pas tout comprendre. Par contre, je comprends l'importance que ça a pour l'autre et je dois composer avec. Donc, s'il y a richesse, je crois que c'est surtout ça, c'est de se dire, voilà, il y a dans plein de continents différents et plein de pays différents, il y a des traditions, des manières de voir les choses, des histoires qu'il faut savoir respecter, entendre. Et tant que ça ne met pas en danger la personne qui souffre, il faut composer avec. Donc, oui, c'est une richesse en soi, je crois, mais il faut savoir aussi l'employer et toujours rester dans cette posture d'humilité, quoi, de comprendre pourquoi c'est important à l'échelle de l'individu.
Et alors, Lina Chamy, vous êtes psychiatre au CRP, le Centre Régional du Psychotraumatisme. Voulez-vous nous présenter cette structure ?
Oui, alors le Centre Régional du Psychotrauma de Tours, c'est un des premiers qui a ouvert ses portes. C'était en 2018 et c'est un peu, c'était un projet qui a été initié par le CN2R, qui est le Centre National de Ressources et Résilience. Qui est un réseau en fait, qui a réfléchi autour du soin du psychotrauma, puisque le constat a été fait après la triste actualité du 13 novembre 2015 qu'en termes d'offres de soins autour du psychotrauma, les choses étaient un peu disparates et qu'il n'y avait pas de communication peut-être suffisante auprès du grand public pour alerter sur la réalité du choc traumatique et des conséquences du choc traumatique. Donc on avait déjà un dispositif qui œuvrait, qui sont les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologique, mais c'est des dispositifs qu'on enclenche plutôt dans les événements de grande ampleur. Et l'idée, c'est d'intervenir auprès des gens qui ont été impliqués pour repérer les situations d'urgence et puis orienter ceux qui auraient besoin de soins. Mais les CRP, ils ont une vocation différente dans le sens où on va recevoir des patients qui souffrent de psychotrauma pour les prendre en charge. Et donc, Tours est un des premiers CRP qui a ouvert, mais il y en a différents à l'échelle nationale qui ont ouvert. Et on a même deux antennes maintenant aujourd'hui sur la région centre, puisque la région centre est quand même assez grande et elle draine une large population. On a une antenne aujourd'hui à Orléans et à Bourges. Et donc, le principe, c'est des soins publics, donc ouverts à tous, à la demande du patient. C'est le patient qui appelle pour faire la demande de soins, parce que la philosophie en fait, du soin dans le psychotrauma, c'est de dire au patient que c'est à lui de reprendre le contrôle et de décider quand il veut y aller et comment il veut y aller. Donc, c'est au patient d'appeler. Il peut toujours être adressé par un médecin, mais c'est à lui d'appeler, de formuler sa demande. Sa demande est prise en compte par le médecin psychiatre qui l'évalue. Ensuite, on discute en équipe avec nos collègues psychologues, infirmiers, secrétaires, les internes, l'assistante sociale, les pédopsychiatres, si oui ou non, le profil du patient pourrait convenir à une prise en charge au CRP par rapport à toutes les thérapies qu'on propose. Parce qu'il arrive effectivement que certains patients ne soient pas prêts. Et nous, on utilise un terme, c'est le terme de la stabilisation. Parfois, certains patients ont des tableaux cliniques très sévères de dépression ou d'autres pathologies psychiatriques, ou ont des idées suicidaires très, très, très présentes, ou alors des problématiques sociales, juridiques qui prennent beaucoup de place. Et donc, l'idée, c'est de leur expliquer. Voilà, on va essayer de stabiliser votre situation, de vous sécuriser sur le plan social, sur le plan juridique, notamment par exemple quand on pense aux personnes qui sont migrantes, qui n'ont pas de toit au-dessus de la tête. L'idée, c'est de sécuriser au maximum, de créer ce sentiment de sécurité chez le patient, de stabiliser les troubles psychiatriques et ensuite d'aller pouvoir s'exposer. Parce que c'est un peu comme sauter en parachute sans parachute. Il faut se sécuriser avant d'y aller. Donc on n'y va jamais quand le patient pourrait malheureusement décompenser un trouble ou se sentir encore moins bien qu'avant qu'il n'est arrivé.
Ça veut dire que s'il n'y a pas de demande, au-delà de ça, il n'y a pas de soins possibles.
Alors, il arrive que certains patients arrivent au CRP avec un peu de doute et un peu de crainte. C'est-à-dire qu'ils disent bien, j'ai envie d'avancer, je sens que j'ai besoin d'y aller, mais j'ai peur, et c'est normal. Donc on va explorer avec eux. Quelles sont vos craintes ? Est-ce que c'est des craintes liées à un manque de confiance dans le soin ? Est-ce que c'est des craintes parce que peut-être que jusqu'à maintenant, on ne vous a pas expliqué ce que c'est que le psychotraumatisme et qu'il faut peut-être aider les patients à comprendre leurs troubles et les conséquences que ça a au quotidien ? Mais finalement, quand on sent que c'est des réticences liées à un manque de connaissance des choses, on va accompagner ces peurs et on va toujours questionner « Est-ce que vous vous sentez prêt malgré tout ça ? Est-ce que vous voulez y aller ?» Mais effectivement, s'il n'y a pas de demande, il faudra travailler le soin ailleurs. Parce que nous, notre soin, il est vraiment basé sur ce qu'on appelle l'exposition. On va exposer le patient à son trauma et on va y aller. Et l'idée, c'est d'aller dépoussiérer tout ça et travailler tout ça. Mais si le soin peut se faire autrement, on va toujours réorienter le patient à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on laisse rarement un patient sans réponse. Si on sent qu'il n'est pas prêt à aller au CRP, on va le réorienter vers des soins à l'extérieur avec un psychologue ou un psychiatre ou un autre professionnel de la santé mentale pour qu'il travaille d'autres choses que le trauma en lui-même et qu'il se sente justement assez prêt et avec les ressources suffisantes pour retourner chez nous. Donc souvent, on leur dit, on va vous réorienter quelque part, mais quand vous serez prêt, rappelez-nous et on vous prendra en charge.
Alors, puisque vous l'expliquiez, on dirait que parfois vous devez expliquer à ces personnes ce qu'est un psychotraumatisme, est-ce que vous voudriez, pour nos auditeurs, nous en dire plus ?
Alors, on explique généralement aux patients que le psychotraumatisme, c'est pas une seule pathologie, c'est une pathologie qui s'est déclarée dans les mois qui ont suivi l'exposition à l'événement, mais ensuite, ça va être tout un tas de comorbidités, ce qu'on appelle des complications, qui vont s'ajouter. Et dans le psychotrauma, en fait, il y a différentes complications, différents champs pathologiques qui vont se greffer. Le psychotraumatisme, c'est une pathologie qui va se développer après l'exposition à un ou plusieurs événements traumatiques. Donc ça veut dire que dans la vie du sujet, un moment, il y a eu cet événement qui a surgi. Et c'est important de définir ce que c'est que l'événement traumatique, parce que souvent on confond l'événement traumatique avec un événement douloureux. L'événement traumatique, à la différence de l'événement douloureux, c'est un événement qui ne va pas nous permettre d'aller de l'avant et de continuer à vivre. On va rester piégé dans le passé. L'événement traumatique, quand on s'y expose, on s'expose un petit peu à ce qu'on appelle l'inconnu. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, qui fait effraction, qui fait violence, et qui donne vraiment le sentiment à l'individu de mourir ou d'être en grave danger. Donc ça crée une véritable sidération. C'est vraiment, les patients vous décrivent un avant, un après, quand ils ont été exposés à un événement traumatique. Et l'exposition peut se faire directement à l'événement, mais aussi indirectement. C'est-à-dire qu'on peut avoir été témoin d'un événement et développer un trouble de stress post-traumatique par la suite. Et alors, c'est là où, effectivement, il est important de faire la différence, parce que l'événement douloureux, lui, il va se transformer en mauvais souvenir. C'est-à-dire que quand on va y repenser, ça va être désagréable, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer à vivre. L'événement traumatique, chez le sujet, ça va être un événement qu'il ne va pas arriver à comprendre, un événement qu'il va arriver à digérer et à inscrire quelque part dans un fichier de sa mémoire pour dire, voilà, ça m'est arrivé, j'en tire tel apprentissage, telle leçon, et je passe à autre chose. Là, en fait, la personne va rester piégée dans le passé et va tout le temps se remémorer cet événement, et ça va se déclarer à différentes échelles dans sa vie. Et c'est là où entre en jeu ensuite ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, qui est une des pathologies du psychotraumatisme. Le trouble de stress post-traumatique, c'est 4 familles de symptômes. Donc, pour faire assez schématique, on a ce qu'on appelle les symptômes d'intrusion. Donc, c'est tout ce qui va revenir à la mémoire du sujet à travers des images, des flashbacks, des cauchemars, ce qu'on appelle des reviviscences. C'est-à-dire qu'on peut même revivre dans le corps certaines sensations vécues au moment du trauma. Ensuite, vous avez toutes les conduites d'évitement. C'est-à-dire que le sujet, comme il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, comme il n'arrive pas à mettre du sens, il va être poussé à éviter toutes les situations, toutes les personnes, tous les souvenirs même, ou les sensations qui vont le rappeler à l'événement traumatique. Donc c'est des personnes qui, malheureusement, avec le temps, peuvent complètement s'exclure et s'isoler de la société. Ensuite, la troisième famille des symptômes, c'est tout ce qui est hyperréactivité neurovégétative. On est en état d'hyperréactivation dans le sens où on va rester en hypervigilance, en état d'alerte, on va avoir du mal à dormir parce que comme on reste en situation de stress, en situation de « j'ai pas compris ce qui m'est arrivé et ça peut se reproduire à tout moment », et ben c'est comme si à chaque fois qu'on est dans un environnement social ou familial, c'est comme si le danger guettait et qu'il fallait rester un peu à l'affût. Donc c'est des personnes qui vont sursauter, qui vont avoir des émotions à fleur de peau, qui vont être très irritables et très fatiguées par cet état d'alerte. Et enfin, la quatrième famille des symptômes, c'est celle qui s'installe avec le temps. C'est quand nos émotions et nos pensées vont commencer à changer sur nous-mêmes et sur le monde. Et dans ces pensées, il peut y avoir beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte, beaucoup d'attribution de la faute, de responsabilisation. Parce que l'être humain a besoin de comprendre et mettre du sens sur ce qui lui arrive. Hein. On dit souvent, l'homme a horreur du vide et la nature a horreur du vide, et ben nous on a besoin de mettre un peu, de combler ce vide et de dire c'est peut-être de ma faute ce qui m'est arrivé, peut-être que je n'aurais pas dû faire ça, peut-être que je n'aurais pas dû m'habiller comme ça, etc. etc. Et ces cognitions vont aussi toucher l'environnement, puisque les gens vont se dire je ne peux plus faire confiance à personne, je ne peux plus construire de relations avec personne, et c'est même le monde qui devient aussi mauvais. Donc tous ces symptômes s'installent dans les semaines après l'événement traumatique, et ensuite ils vont, si on ne les prend pas en charge, se compliquer d'autres pathologies psychiatriques comme la dépression, les troubles d'usage de l'alcool, d'autres substances, parce que les personnes vont chercher à éteindre aussi ces émotions, ces pensées-là. Donc nous, souvent, les patients, on les récupère à un stade où la pathologie, c'est compliqué et où il faut d'abord traiter ces troubles avant d'aller traiter le trouble de stress post-traumatique.
Et alors, vous mentionnez la survenue d'un événement qui est, disons, le point de départ des troubles qui vont venir ensuite, mais ça veut dire que cet événement, il est propre à chaque personne. C'est-à-dire que pour un même événement, tout le monde ne va pas réagir de la même façon.
Oui, exactement. Alors après, il y a quand même dans les recherches, les statistiques qui vous disent qu'il y a un type d'événement qui est très traumatogène. Ce sont ce qu'on appelle les violences interpersonnelles, c'est-à-dire tout ce qui va être infligé d'un humain à un autre avec l'intention de faire du mal. Et on peut citer les violences sexuelles, les violences intrafamiliales, les violences conjugales. Donc celles-ci sont plus à risque de faire développer un trouble de stress post-traumatique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on rencontre le plus, nous, au Centre régional du psychotrauma. Mais après, effectivement, vous avez les événements comme les crimes de guerre, vous avez les catastrophes naturelles. On sait que les catastrophes naturelles sont moins pourvoyeuses que les violences interpersonnelles de troubles de stress post-traumatique. Mais ça ne va pas juste dépendre de la nature de l'événement. Ça va aussi dépendre des ressources de l'individu, de la protection de l'individu, s'il y a eu des gens pour accompagner aussi cet événement traumatique, s'il y a eu, juste après, de la verbalisation, un espace pour se sentir en sécurité, des bonnes ressources matérielles, des bonnes ressources psychologiques. Donc, il y a aussi des facteurs individuels de vulnérabilité qui sont liés, effectivement, à l'événement, mais aussi à la réalité propre du sujet.
On entend parfois aussi parler de sidération, c'est quoi ?
Alors la sidération, souvent, ça fait partie des trois réactions comportementales qu'on peut avoir face à un trauma. Donc il y a des gens qui se sidèrent, c'est ce qu'on appelle le freeze, c'est qu'on ne bouge plus. Et généralement, en fait, cette sidération, elle est liée à un mécanisme neurobiologique sous-jacent. C'est que face à un danger extrême, souvent, le cerveau va vouloir nous protéger d'une déferlante émotionnelle très intense. Et il va y avoir une espèce de court-circuit, voilà, un peu comme sur le tableau électrique, hein, on court-circuite, on fait en sorte que le courant ne passe plus parce que c'est trop dangereux, c'est trop pour le cerveau. Et donc cette sidération, souvent, c'est ce qu'on va confondre aussi avec le phénomène de dissociation. C'est un mécanisme qui va nous protéger à l'instant T, mais qui finalement, parfois, peut nous mettre plus en danger. Et c'est vrai que ça peut, malheureusement, chez beaucoup de victimes, causer de la culpabilité de se dire « j'ai pas bougé, je me suis pas défendue ». Et ce qu'on va expliquer, c'est déjà votre cerveau, en fait, c'est lui qui a pris le contrôle. Il voulait vous protéger des émotions du moment. Mais aussi, la sidération et la dissociation a pu vous protéger, peut-être, d'une réplique de l'agresseur ou de quelque chose qui aurait pu être plus dangereux. Parce qu'effectivement, quand on commence à se défendre et à vouloir se battre, peut-être, avec l'agresseur ou face à la situation, on peut se mettre encore plus en danger. Donc c'est aussi un réflexe qui est là peut-être pour nous protéger de quelque chose de plus grave. Donc on essaye d'aider les patients à les déculpabiliser en leur expliquant ce qui se passe dans le cerveau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut souvent voir, la sidération au moment où on est exposé. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les fuites désorganisées, des gens qui vont prendre la fuite mais sans qu'il y ait vraiment de vraie destination. Et puis beaucoup d'agitation. Donc on réagit tous différemment face à un événement traumatique. Oui.
Une dernière question. Pardon, je tousse avant de faire une pause musicale. Donc, vous expliquez que c'est être exposé à une situation difficile, compliquée, douloureuse. Est-ce qu'on peut dire que les soignants, à force d'accompagner des personnes traumatisées, peuvent eux aussi développer un traumatisme ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est reconnu sous le terme de traumatisme vicariant. Alors, c'est encore aujourd'hui une classification, une terminologie qu'on revoit et qu'on re-questionne. Mais parmi les expositions, comme je vous disais, il y a aussi les expositions indirectes. Et dans les expositions indirectes, il y a les professionnels de santé qui sont au contact de gens qui ont des récits traumatiques. Mais aussi, on peut penser aux policiers, aux pompiers, aux soignants qui sont exposés à la mort des individus, à des situations dangereuses où eux-mêmes ont pu être en danger. On peut penser aussi à ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, où les soignants avaient quand même peur d'attraper ce virus au tout début et malheureusement d'en décéder. Donc et ces professionnels-là doivent d'ailleurs être accompagnés.
Merci Lina Chami. Alors vous nous avez choisi des pauses musicales. Que va-t-on écouter en premier ?
Alors je crois que j'avais choisi Sur la tombe de mes gens de l'artiste Corneille. J'ai choisi surtout Corneille parce que Corneille, c'est à travers ses chansons et ses différents albums, on entend parler de trauma, mais aussi on entend parler de deuil et de résilience. Et je trouve que dans son évolution artistique, c'est assez flagrant. Et cette chanson Sur la tombe de mes gens, elle parle de deuil, elle parle du trauma, elle parle aussi de cette difficulté à revenir sur ce qui a fait du mal, mais la nécessité aussi peut-être d'aller chercher ses démons et d'aller faire la paix avec eux. Et donc c'est une très belle chanson, je trouve.
Alors on écoute Corneille sur Radio Campus Tours et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes dans la Méridienne.
Sur la tombe de mi-jambe, je reverrai le jardin où j'ai laissé reposer les corps des miens un beau matin. Je retrouverai aussi ces braves qui nous cachaient de la faim. Je leur chanterai qu'on s'en rappelle toujours au nom de tous les miens. Sur la tombe de mes gens, je reverrai le chemin, le long couloir du désespoir, le grand exode, le long chemin. Et au bout, toujours l'animal qui a changé mon destin, qui fatigue et m'a dit va, je laisse le plaisir au prochain. Sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, je reverrai mon pays, les mille collines et les vents chauds et les rues où j'ai tout appris. Je retrouverai mes vieux amours et ma première fois peut-être, celle que j'aimerai toujours mais qui je crois ne doit plus être. Sur la tombe de mes gens, je me reverrai petit homme, grand de cœur et de courage mais tout petit comme tous les hommes. Prendre de l'élan sans recul pour se défaire d'un passé trop lourd, sans savoir que l'or viendra où il faudra qu'il y retourne. Sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens. D'avoir laissé vaincre la haine, ai-je vouloir leur faire la peau à ces maudits fils de chienne, les grands comme les petits bourreaux, ou vais-je rester, pisse quoi qu'il advienne, sur la tombe de mes gens, sur la tombe de mes gens, faudra bien qu'on y retourne un jour.
C'était Corneille sur la tombe de mes gens sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne. Cette pause musicale était choisie par mon invité, le docteur Lina Chamy, psychiatre au Centre Régional du Psychotraumatisme. Alors Lina Chamy, vous utilisez des outils de soins particuliers. Je pense que peut-être tous vos consoeurs et confrères n'utilisent pas cela. Vous utilisez, je crois, le MDR. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'EMDR, c'est une thérapie qui est assez, assez jeune et qui est présentée comme une des thérapies qu'on pratique dans les troubles de stress post-traumatique. On parle de thérapie d'exposition, c'est-à-dire l'idée, c'est d'accompagner le patient à s'exposer à son trauma pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse vivre avec. On lui dit bien, vous n'allez pas oublier ce qui s'est passé, même s'il y a des petites bribes, des choses qui peuvent s'effacer avec le temps. Vous n'allez pas effacer ce qui s'est passé. En revanche, quand vous y repenserez, ce ne sera pas la même douleur. Et l'EMDR, ça fait partie d'autres thérapies qu'on utilise, nous, au CRP, pour exposer les patients. Donc, il y a aussi la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de reconsolidation. Donc, chaque thérapeute pratique avec les outils qui le mettent le plus à l'aise. Parce que ce qui est important aussi pour un thérapeute, c'est de savoir pratiquer avec confiance les outils auxquels il a été formé, pour que le patient aussi se sente en sécurité. Et l'EMDR, le principe de l'EMDR, en fait, c'est de venir réactiver le souvenir traumatique dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à travers l'image, mais aussi à travers les sensations et à travers les pensées, les émotions que le patient a, ou la patiente a ressenti au moment où c'est arrivé, où le trauma a fait apparition. Et en remettant le patient dans cet état-là, on va désensibiliser, c'est un terme qu'on utilise, la désensibilisation de toutes ces composantes autour du souvenir traumatique. Et on fait plusieurs expositions comme ça, plusieurs séances, jusqu'à ce que le patient arrive à un stade où quand il repense à l'événement traumatique, la charge émotionnelle, la charge des pensées négatives et des sensations désagréables soit diminuée à un maximum. Et on sent bien qu'à partir de ce moment, le patient est capable de se dire « ça appartient au passé, c'est derrière moi, maintenant je suis en sécurité ». C'est ça en fait l'objectif du soin dans le trauma, c'est d'aller chercher un souvenir qui est bloqué dans la mémoire quelque part et qui bloque d'ailleurs tout l'individu dans sa vie pour aller le saisir, le nettoyer un peu et aller le ranger quelque part où ça ne fasse plus la même douleur qu'avant. Et la thérapie d'exposition par l'EMDR, ce n'est pas forcément la thérapie qui est la mieux pour tous les patients. Il faut aussi s'adapter à l'histoire du patient, à ses ressources. Parfois, l'EMDR est même contre-indiqué dans certaines situations parce que c'est quand même une thérapie exposante. Et ça fait partie d'un maillage de soins. C'est-à-dire que l'exposition, c'est pas l'objectif suprême du soin autour du psychotraumatisme. On peut soigner le psychotrauma avec d'autres outils et sans forcément exposer. C'est une partie des soins. Et parmi les soins, et comme ça fait un lien avec ce qu'on disait au tout début, dans les soins, il y a aussi prendre en considération tout l'environnement du sujet et voir comment ça se passe à l'échelle familiale, sociale, professionnelle. Parce que exposer au trauma un individu qui lui-même est encore en insécurité et en souffrance, ça n'a pas de sens en fait.
Alors, vous avez évoqué aussi la psychothérapie de la reconsolidation.
Oui, c'est une autre thérapie aussi qui est pratiquée, qui a été très portée par l'équipe d'Alain Brunet au Canada et qui, en fait, va s'appuyer sur un autre mécanisme où, en fait, on va donner un traitement, je schématise, mais on va donner un traitement au patient avant chaque début de séance. Et la séance consiste à lire son script traumatique, c'est-à-dire qu'on lui demandait avant de démarrer la thérapie d'écrire l'événement traumatique dans les moindres détails, au présent, comme si vraiment il revivait l'événement. Et qu'avant de lire ce script traumatique, il ait pris un médicament qui aide en fait à diminuer l'anxiété pour pouvoir s'exposer au récit traumatique, mais aussi pouvoir reconsolider le souvenir de façon adaptée à ce qu'il ne fasse plus la même souffrance qu'avant, de façon très schématique.
Est-ce que comment vous annoncez ces possibilités de soins à vos patients ? Parce que ça peut être déstabilisant, ça peut faire très peur.
Oui, tout à fait. Alors c'est important, encore une fois, de questionner ses peurs, ses angoisses, d'aller les rassurer. Ça, c'est le travail de chaque médecin, d'ailleurs, quand on propose un traitement, il faut pouvoir laisser un espace d'interrogation, de questionnement, que ce soit pour les médicaments ou autres. Et donc là, on prend le temps d'aller questionner ses craintes et de les rassurer si c'est possible. Et si on sent que le patient n'est pas prêt parce que la réactivation traumatique lui paraît impossible, on passe par d'autres soins. On peut exposer différemment, on peut orienter vers un psychologue pour faire une autre type de thérapie, de la thérapie des schémas, par exemple, qui est moins exposante, ou faire de l'accompagnement social, quand on sent que le patient est encore très vulnérable ou dans une situation de précarité. Donc quand le patient n'est pas prêt, il faut l'écouter et pouvoir lui dire « Ok, très bien, bon, on fera ça peut-être dans un second temps, mais je ne vous laisse pas tout seul. Là, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, en tout cas, plus tard, le travail d'exposition ou pas ?» Et comme je disais, parfois, il y a des patients pour qui ce n'est pas du tout l'indication parce que les problématiques vont être autres que le souvenir traumatique et les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Ça va être des problématiques dans la relation à l'autre, ce qu'on appelle les relations interpersonnelles, l'estime de soi, la confiance en soi, les limites qu'on pose à l'autre. Donc on va travailler sur des dynamiques qui sont des conséquences du psychotraumatisme, mais qui ne répondent pas forcément à la thérapie d'exposition par EMDR ou autre.
Donc là, ce que vous expliquez aussi, si j'écoute bien, c'est que le traitement médicamenteux ne suffit pas.
Oui, tout comme la thérapie d'exposition, parfois, ne suffit pas. Les soins psychiatriques, en général, sont des soins de globalité, que ce soit à l'échelle des outils thérapeutiques qu'on propose, mais aussi des professionnels. C'est-à-dire que souvent, le psychiatre ne travaille pas tout seul. Il est accompagné par une équipe d'infirmiers, de psychologues, d'autres professionnels concernés par la situation du patient, que ce soit à l'hôpital ou dans des centres médico-psychologiques. On est toujours en interconnexion avec d'autres professionnels. Donc, le soin psychique doit se penser à plusieurs ou en tout cas avec différentes considérations. Et le médicament en lui-même, c'est une manière, comme je disais tout à l'heure, de stabiliser des troubles psychiatriques qui sont parfois très sévères, de pouvoir soulager des symptômes très envahissants comme les idées suicidaires, l'anxiété, les troubles du sommeil. Et ensuite, une fois que le patient est un minimum stabilisé et tranquille et moins intrusé par toute cette souffrance, là, on peut envisager la deuxième phase de soins. Mais le médicament ne suffit pas à lui-même. Et c'est pareil dans d'autres maladies psychiatriques comme la schizophrénie ou la dépression. Le médicament est une béquille. C'est ce qui va aider à sortir d'un état qui peut rendre les autres soins complexes. Mais on ne s'appuie pas que sur le médicament, même si parfois il a beaucoup d'importance dans certaines pathologies, mais il ne suffit pas en lui-même.
Et alors, dans ces accompagnements au CRP, est-ce qu'il y a aussi des ateliers où on travaille en groupe ?
Oui, c'est ce qu'on appelle les groupes thérapeutiques, c'est-à-dire que ce sont des groupes qui sont pensés autour d'une problématique qu'on va travailler. L'idée, c'est pas de faire des groupes de parole. Les groupes de parole, c'est autre chose. Là, les groupes thérapeutiques sont déjà coordonnés par des soignants, donc des soignants qui sont quand même en train d'observer les patients, ce qui peut se passer au sein de l'échange entre les patients. Parfois, on peut avoir des patients qui sont très mal, donc c'est important d'avoir un médecin ou une infirmière qui assiste la personne. Et le groupe thérapeutique, du coup, va être pensé autour d'une problématique. Donc nous, par exemple, on a deux groupes chez les adultes, celui de la gestion de la dissociation, puisque effectivement, c'est un symptôme très lourd dans le psychotrauma et qu'il faut pouvoir l'accompagner, mais aussi de la psychoéducation, c'est-à-dire qu'on a créé un groupe pour aider les patients à comprendre ce que c'est que le psychotraumatisme, pour pouvoir reprendre le contrôle des choses, parce que comprendre, c'est déjà avancer dans le soin. Comprendre ce qui m'arrive, c'est pouvoir me dire, ben, je suis pas fou en fait, il se passe bien quelque chose, et quand dans mon quotidien j'explose en larmes parce que on m'a fait une réflexion ou parce que je refuse d'être touchée par un homme, je comprends d'où ça vient, je sais que il y a des mots qui viennent qualifier ces choses-là, et déjà poser ces mots-là, ça permet de reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive et de se dire, je suis pas fou. Donc il y a ce groupe de psychoéducation qui permet aux patients de comprendre qu'est-ce que c'est que le psychotraumatisme, mais on a aussi des groupes qu'on monte pour les adolescents pour travailler l'ancrage. Donc ces groupes-là ont vocation à donner des outils de compréhension aux patients, d'avancer dans les soins, mais on leur dit bien à nos patients, c'est pas pour raconter vos traumatismes aux autres patients. Voilà, vous avez le droit à cette intimité. L'idée, c'est que vous réfléchissiez en groupe à vos symptômes, à vos difficultés, pour déjà ne pas vous sentir seul, de vous dire, il y a des gens qui souffrent comme moi, mais aussi de reprendre le contrôle des choses.
Alors justement, vous évoquiez le groupe dissociation. Est-ce que vous voulez expliquer ce que c'est ?
Oui. Alors, ce qui est parmi les soins de stabilisation qu'on propose au CRP, il y a ce groupe parce qu'on rencontre des patients qui souffrent de ce qu'on appelle une dissociation chronique. La dissociation, comme je le disais tout à l'heure, c'est un état en fait qui vient protéger le cerveau à un instant T contre une charge émotionnelle trop importante. Le problème, c'est quand la dissociation va avoir tendance à se répéter dans la vie du sujet, puisque en fait, c'est un automatisme qui, une fois qu'il a pris, va se reproduire à chaque fois qu'un patient, une personne, va être confrontée à quelque chose de très douloureux. Ça va être un automatisme naturel, inconscient, qui se met en place, où dès que la personne va être en contact avec quelque chose qui lui rappelle le traumatisme, va couper. C'est vraiment le fait de couper avec ses émotions et avec son corps et de plus être présent à soi. Et dans la dissociation, d'ailleurs, on a deux symptômes différents. C'est la déréalisation, c'est de sentir que le monde autour de soi n'est pas réel, et la dépersonnalisation, de sentir qu'on est à l'extérieur de son corps. Et l'idée, en fait, dans le psychotrauma, quand on veut aller soigner, c'est de pouvoir aider le patient à s'exposer à son traumatisme. Mais si on expose, bah, le risque, c'est qu'il dissocie. Donc justement, pour aider le patient à pouvoir s'exposer, il faut lui donner les outils pour gérer sa dissociation, ou en tout cas que cette dissociation soit un minimum contrôlée. C'est-à-dire qu'on lui dit, c'est pas grave si vous arrivez de dissocier, vous vous protégez. En revanche, on va vous donner les outils de compréhension et des outils d'ancrage, par exemple, pour éviter de dissocier quand on va vous exposer au trauma, pour bien travailler sur le traumatisme.
Est-ce que ça se voit de l'extérieur quand un patient est dissocié ?
Oui, ça peut se voir, en effet. On voit qu'il y a une perte de contact avec l'environnement. On sent que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui s'éteint. La personne peut être complètement ailleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez lui parler, lui reposer la question. Elle aura été dans un moment d'absence. Donc oui, c'est des choses qu'on peut constater physiquement. À l'inverse, ça peut être des états émotionnels extrêmes où la personne va s'agiter. Donc chacun manifeste la dissociation différemment. Mais souvent, oui, ça peut se voir, tout comme ça peut être complètement invisible.
Merci Lina Chami. Alors peut-être voudriez-vous nous expliquer comment on fait, vous l'avez dit au début de cette émission, pour aller au CRP. Donc c'est adressé par un soignant, mais on ne débarque pas comme ça au CRP, comment ça marche ?
Alors, on peut appeler hein, sans avoir été adressé. Il y a des patients, par exemple, des personnes qui tombent sur un article qui parle du CRP, du psychotrauma, qui se renseignent et puis qui voient qu'il y a à Tours ce CRP et qui appellent et qui font la demande. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et on a beaucoup de patients qui appellent spontanément ou sur conseil d'un ami ou d'un proche. Et on a des adressages. Mais l'important, c'est vraiment de faire la demande de soi-même. Et d'ailleurs, parfois, on peut avoir des parents qui appellent pour leurs enfants et on leur dit bien, vous êtes le représentant légal, etc. C'est important, mais il faut que l'enfant soit au courant de cette démarche et qu'il soit aussi d'accord pour la faire. Et pareil, on peut avoir par exemple des assistantes sociales qui appellent pour des patients en situation de précarité ou des personnes qui sont en situation de migration. On leur dit bien, merci d'avoir appelé, mais c'est important que le patient appelle derrière pour qu'il fasse la démarche de lui-même et qu'il comprenne pourquoi il l'a fait aussi.
Alors, d'appeler soi-même pour être dans une demande de soins, mais ça veut dire que vous avez quand même un temps d'évaluation quand vous recevez une demande, pour savoir si elle est justifiée. Je pose cette question parce qu'il y a aussi des fois le phénomène d'autodiagnostic via les réseaux sociaux, où les gens peuvent se reconnaître dans tel symptôme ou telle maladie. Non pas que leur souffrance ne soit pas réelle, mais en tout cas, ils s'attribuent un diagnostic. Donc, comment vous traitez ces demandes ?
Alors, on les traite comme les autres, c'est-à-dire que même si le patient a la certitude d'avoir tel type de diagnostic ou de problématique, on lui dit, on entend, dites-nous pourquoi vous pensez ça. Donc, c'est important de le questionner du pourquoi il pense ça, comment il en est arrivé à cette conclusion, et de lui dire, très bien, maintenant, moi, de mon évaluation, de mes compétences, de mon expertise, je vais vous dire ce que j'en pense. L'idée, c'est toujours d'entendre qu'il y a une souffrance derrière. Parce qu'une personne qui vient se poser un diagnostic psychiatrique, c'est que il y a de la souffrance quelque part, qu'elle essaye de nommer, qu'elle essaye effectivement d'évaluer selon ses propres représentations. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a ce phénomène qui s'amplifie puisque certains concepts sont presque devenus à la mode. Mais derrière ces étiquettes, il faut être conscient qu'il y a une souffrance. Et donc les patients qui viennent avec un autodiagnostic qui n'est pas avéré après évaluation, on leur dit bien, on ne va pas les déconsidérer, on leur dit bien, ça ne correspond pas à ça, mais si vous voulez, je peux vous orienter vers tel professionnel qui peut vous accompagner sur telle problématique. En fait, c'est un peu à double tranchant, le phénomène un peu d'autodiagnostic. C'est que d'un côté, ça permet de libérer la parole autour des problématiques de santé mentale et de laisser ces termes accessibles au grand public et de dire, voilà, il n'y a pas de tabou, on peut en parler. Mais d'un autre côté, c'est vrai que derrière ces étiquettes, on en vient malheureusement, encore une fois, à cloisonner et individualiser les problématiques du sujet, dans le sens où la personne est responsable de sa souffrance et c'est à elle d'aller poser les mots et de trouver une solution, et la solution vient d'elle-même. Or, encore une fois, la santé psychique, c'est un peu l'affaire de tous. La santé mentale, c'est l'affaire de tous. On ne peut pas prendre en charge une souffrance mentale en disant à un patient, tout repose sur vous, sur votre motivation, sur votre volonté, sur vos ressources. Il y a plein de choses à travailler autour. Donc, il y a aussi le piège de l'autodiagnostic, celui de dire, voilà, moi, je suis, par exemple, trouble du spectre autistique, et donc, du coup, c'est à moi de trouver les solutions et de régler mon problème avec mon professionnel de santé. Or, malheureusement, il y a plein de choses qui ne sont pas juste de la volonté et du fait du patient.
Mais en tout cas, ce que vous répondez, c'est que vous croyez que la personne a un problème, quel qu'il soit.
Alors, peut-être qu'il y a un problème qui ne relève pas d'un trouble psychique, mais quelqu'un qui vient effectivement avec une souffrance exprimée de cette façon, c'est quelqu'un qui vient déposer, en tout cas, une souffrance et qu'il faut être capable d'écouter. Si ça ne relève pas du champ de la psychiatrie, on saura leur dire. Mais c'est important de l'entendre.
Merci Lina Chami. Alors, vous nous avez choisi une nouvelle pause musicale. Que va-t-on écouter ?
Alors, ce deuxième titre, c'est une chanson en arabe d'un chanteur syrien qui s'appelle Samir Shoukhey et qui a chanté il y a quelques années une chanson quand les événements en Syrie ont démarré avec la révolte du peuple syrien, où il chante qu'on approche de la liberté. Voilà. Et je trouvais cette chanson d'autant plus forte que là, on sait qu'il y a quelques semaines, l'actualité syrienne a été chamboulée par le départ du régime des Assad. Et cette chanson qui parle de liberté, qu'on approche de la liberté, c'est un peu une hymne, je trouve, à l'espoir. C'est de se dire, même si on n'y était pas encore, et ben aujourd'hui on y est arrivé, et de pouvoir y croire avec le chant, avec l'art, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui vient dire aussi de la noblesse, hein, de ces principes. Et voilà, c'est une chanson qui parle beaucoup à mon cœur aussi, donc voilà pourquoi je la propose.
Et ben merci à vous de partager cette musique avec nous dans La Méridienne sur Radio Campus Tours.
قربناها يا الحرية قربناها يا الحرية
يا هلا هو
مهرك كان غالي علي
يا هلا هو
دم الشهداء فداكي
يا هو
ننساه لو فينا ننساكي
ما بننساه هيا هو هيا هو
وهاي هاي هيا هو هاي هاي هيا هو هيا هو الشعب السوري ما بينذل
هيا هو
هيا هو فينا نتحمل
هيا هو
هيا هو شعب السوري ما بينذل
هيا هو
هيا هو ما عاد فينا نتحمل
هيا هو
هيا هو والكرامة حق الكل
هيا هو
هيا هو مش حيقولوا وحدتنا هاي هاي
سقطوا الناس النظام
هي يا هو
لما للساحة شعب يغني هاي وسوريا بدها حرية
وقربنا وقربنا
C'était la pause musicale choisie par notre invité. Nous sommes sur Radio Campus Tours. Je vais laisser parler notre invité, notre journaliste.
Merci à toi, Kessia, d'avoir pris le relais à la régie. Donc cette émission se poursuit. Et merci aussi à notre invité pour cette, Très belle pause musicale. Alors, docteur Chamy, est-ce que vous voudriez nous parler peut-être de la perception du temps, du rapport au temps en psychiatrie?
Alors, le premier mot qui me vient à l'esprit, là, c'est le mot patience. Patience et accompagnement. En psychiatrie, c'est certainement la discipline médicale qu'il ne faut pas choisir si on veut voir des résultats immédiats de ce qu'on fait. Parce qu'on compose avec l'être humain. Et l'être humain, c'est pas juste une entité corporelle, c'est une histoire, c'est des événements qui vont venir s'ajouter, c'est tout l'environnement qui est autour de lui. Donc on aura beau essayer de comprendre quelqu'un, mais ce quelqu'un va évoluer, va presque changer même parfois, va regarder les choses différemment. Donc il faut savoir en fait avoir cette posture d'humilité, d'être conscient qu'on accompagne un être humain avec toute sa singularité, ses paradoxes, ses particularités, et puis les choses qu'il ne nous dit pas, parce que c'est pas parce qu'on est psychiatre qu'on a accès à la conscience totale du sujet et à tout ce qu'il pense. Donc il faut accepter aussi une forme d'impuissance, mais pas l'impuissance de la résignation, c'est l'impuissance plutôt de « je prends mon temps parce que le principal doit venir du patient. C'est lui qui me donne et moi j'accompagne et je fais avec. » Donc le mot patience me parle et la psychiatrie a de la temporalité de l'urgence. Hein. On a des urgences psychiatriques, on a des situations qui sont à prendre en charge dans un délai assez rapide. Ce qui peut arriver aux urgences, par exemple, c'est les états d'agitation, les états de délire, etc. Donc il faut savoir pouvoir réagir dans le temps de l'urgence, mais aussi poser le temps qu'il faut, qu'il est nécessaire pour déjà être auprès du patient, au chevet du patient, de l'écouter dans toute son histoire, sa globalité, mais aussi ses proches, son environnement. Donc c'est vraiment la discipline, je dirais, du temps, effectivement.
Donc ça veut dire que chaque personne a son histoire de soins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer que pour tel trouble, telle difficulté, c'est bon, dans 15 jours, c'est guéri. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'évaluation de cet ordre-là.
Oui, c'est compliqué. Déjà, on parle très peu de guérison, on parle plutôt de soins. Il peut arriver dans certains cas que des états pathologiques comme une dépression ou un état psychotique transitoire se terminent et puis que la personne reprenne le cours de sa vie. Mais en général, c'est que malheureusement, ça vient annoncer une pathologie qui peut récidiver. Donc, on dit bien aux patients qu'il y a un risque de récidive et qu'il n'y a pas forcément de phénomène on-off. Ce n'est pas un jour, je me réveille, je suis déprimée et puis dans quelques mois, ça y est, j'ai pris un antidépresseur et je n'ai plus de dépression. Il y a des symptômes qui peuvent persister avec le temps, des choses qu'il faut travailler en thérapie avec un psychologue. Donc oui, on ne peut pas promettre à un patient qui souffre d'une pathologie de lui dire ça va se terminer à telle période. En revanche, encore une fois, la psychiatrie est une science, donc on a des études et on peut quand même donner des estimations, des pronostics à nos patients. Par exemple, on leur explique, c'est un exemple assez typique, celui des antidépresseurs, c'est qu'on leur dit bien, voilà, on va vous prescrire un antidépresseur, c'est un traitement qui ne va pas agir dans l'immédiateté, c'est-à-dire vous n'allez pas vous sentir bien, ce n'est pas la pilule du bonheur, l'antidépresseur, c'est un traitement qui va remettre un peu en route la machine qui s'est éteinte, notamment au niveau du cerveau, et il faudra attendre au moins 3-4 semaines pour que ça commence à agir. Mais dans la pratique, vous pouvez avoir des patients qui peuvent aller mieux au bout d'une semaine, tout comme des patients qui peuvent mettre plus de temps. Et on leur dit bien que pour que l'antidépresseur fasse l'effet qu'il faut pour considérer une diminution et un arrêt du traitement, il faut attendre un minimum de 6-7 mois pour se dire « Ok, peut-être que là, on peut le diminuer et l'arrêter. » Donc, on a quand même des études statistiques qui viennent donner un peu cette marge, cette fenêtre. Mais encore une fois, chaque patient a son histoire, la particularité de ses troubles. Et puis, la psychiatrie, on est en train de découvrir à quel point c'est une problématique interconnectée avec beaucoup d'autres problèmes de santé, des problèmes inflammatoires par exemple, des problèmes qui peuvent être neurologiques. Donc on peut soigner un état psychiatrique, mais aussi il faut peut-être soigner aussi les autres états organiques qui sont pathologiques. Donc chaque patient aussi doit être pris en tout cas en charge dans sa globalité et les particularités de sa maladie. Donc on ne peut pas donner de certitude, on peut donner une estimation mais pas de certitude. Parce que les certitudes créent aussi de la déception auprès du patient. Donc il faut aussi le préparer à ce qui peut se passer autrement qu'une réussite du traitement.
On peut dire aussi qu'il y a un décalage entre le temps, disons, du patient ou de la victime et celui de l'entourage, des aidants.
Oui, c'est vrai que le temps, c'est une question tellement individuelle, finalement, notre perception du temps, et on le voit bien dans nos journées, il y a bien des moments qui passent très vite, tout comme il y en a certains qui sont longs comme pas possible. Et la pathologie psychiatrique, elle peut effectivement... donner un sentiment d'un temps qui s'étire, d'un temps infini à celui qui souffre d'une maladie mentale et aussi à son entourage qui parfois est dans des attentes différentes. L'attente de l'entourage, ça va être il faut que tu redeviennes comme avant, il faut que tu te remettes en route et puis regarde les gens autour de toi, ils sont en train d'avancer dans leur vie de famille, dans leur vie professionnelle. Est-ce que ça te motive pas justement aussi à aller mieux, etc. Donc les attentes des proches créent aussi de l'impatience, alors que le temps du patient, le temps de la maladie psychiatrique peut être beaucoup plus long et demande une certaine forme aussi d'acceptation qu'il y a des jours où ça peut aller mieux et des jours où ça peut aller beaucoup moins bien, et il faut pouvoir accompagner en fait ces phénomènes fluctuants, ces moments où effectivement on peut sentir qu'il y a un échec qui s'installe, mais finalement en fait c'est juste un cycle en fait qui se répète. Donc oui, le temps n'est pas le même pour chacun, et même pour le soignant c'est pas le même aussi.
D'ailleurs, revenir à comme tu étais avant, est-ce que ça existe?
Alors ça, moi, je le dis bien à mes patients, non seulement c'est difficile de redevenir comme avant quand on a vécu quelque chose comme ça, surtout quand on l'a vécu plusieurs fois. Et puis finalement, c'est quoi avant? Définissons, c'est quoi avant? Qui étiez-vous avant? Ce qui est important, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui vous définit aujourd'hui, et qu'est-ce que le trauma aurait pu façonner en vous qu'aujourd'hui on pourrait peut-être transformer en quelque chose de bon, une ressource. Alors ça rejoint justement le concept de résilience qui est, je pense, un terme assez galvaudé, parfois même culpabilisant, c'est de se dire, voilà, j'ai traversé quelque chose de très fort, très dur, et je dois forcément en faire quelque chose de positif. Alors c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein. Il y a malheureusement des situations où l'horreur de ce qu'on a vécu ne peut en fait venir donner du sens après, ensuite, dans la vie du sujet. Mais ce qu'on va leur dire, c'est que vous avez été capable de traverser ça, vous avez été capable d'affronter ça, donc vous avez de la ressource. Et on va la chercher, cette ressource. On va voir sur quoi elle s'appuie et comment on peut la cultiver. Mais c'est vrai qu'il y a un véritable avant-après pour les personnes.
C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter de renoncer, de faire un deuil un peu de la personne qu'on était avant.
Ah oui, complètement. Je pense effectivement que quand on traverse des événements aussi effractants, on n'est plus la même personne. Notre regard sur la vie a changé, notre regard sur nous-mêmes a changé, sur notre entourage. Et parfois, il y a des vraies ruptures qui sont provoquées. Par exemple, la rupture des liens avec la famille, parce qu'on a été malheureusement victime d'inceste pendant des années par un parent. Donc oui, il y a le deuil d'une personne, mais le deuil aussi d'une vie et d'espoir et de représentation. Mais l'idée, c'est de venir accompagner ça pour leur expliquer pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est quelque chose de bon pour eux et qu'ils vont enfin reprendre contrôle de leur vie.
D'ailleurs, le 5 décembre dernier se tenait la journée régionale du psychotraumatisme. Donc, c'était un événement qui était organisé par le Centre régional du psychotraumatisme, animé en grande partie par vous d'ailleurs, Nina Chamy. Et alors, parmi les interventions, il y avait celle du CUMP 37 qui expliquait qu'il ne faut pas se précipiter pour déculpabiliser une victime qui s'accuse, qui dit par exemple « Ah, c'est de ma faute, si j'avais fait ça, si je n'avais pas fait telle chose ». Alors ça pouvait sembler étonnant, comment dire, dans l'assistance, de se dire « Ah bon, mais quelqu'un qui se maltraite un peu comme ça, spontanément, on aurait plutôt envie de lui dire « Mais non, c'est pas de ta faute ». Du coup, pourquoi se retenir de dire ça?
Alors effectivement, les CUMP dont j'ai parlé au tout début de l'intervention, qui sont des dispositifs qui interviennent dans l'urgence sur des événements de grande ampleur, ils ont une prise en charge du psychotraumatisme qui est différente, parce qu'il y a une temporalité aussi dans l'installation des symptômes. Et quand on a été exposé à un événement traumatique, les symptômes ne sont pas forcément encore installés, il y a encore des choses qu'on peut désamorcer. Donc la réflexion de l'intervention est différente de celle du psychiatre ou du psychologue qui peut intervenir 3, 4 mois, voire 15 ans, 20 ans après, parce qu'on a aussi beaucoup de situations de patients qui ont vécu des traumas il y a 50 ans et qui ont besoin de faire un travail dessus. Mais l'intervention des CUMP dans l'urgence, les cellules d'urgence médico-psychologique, c'est de faire ce qu'on appelle le désamorçage émotionnel. Et en fait, d'accompagner le patient dans la verbalisation de ce qu'il a ressenti, de comment il a vu les choses, et parfois de lui faire re-raconter l'événement pour remettre de la narration et qu'il ait le sentiment de reprendre un peu le contrôle des choses. Parce que c'est encore ça l'idée du soin dans le psychotrauma, c'est je vous aide à vivre avec, mais je vous aide aussi à avoir le sentiment que vous avez repris le contrôle sur les choses. Parce que le trauma met le sujet dans l'impuissance et l'incompréhension. Et donc, dans les interventions d'urgence comme ça, c'est important d'accompagner le patient dans la verbalisation de ce qu'il ressent, c'est quoi vos émotions, c'est quoi vos pensées. Et il ne faut pas trop toucher à ça, parce que si on commence à justement lui dire il ne faut pas penser comme ça, c'est déjà on est en train de le culpabiliser, parce que cette culpabilité, elle est naturelle, c'est un processus émotionnel par lequel chaque individu passe, comme je le disais. L'individu a horreur du vide, la nature a horreur du vide, on a besoin de mettre des explications, et la première explication qui nous vient à l'esprit, c'est j'ai fait ça, je ne devais pas aller ici, je ne devais pas faire ça, je ne devais pas dire ça, et c'est une manière de reprendre le contrôle. Donc il ne faut pas trop toucher à ça dans les instants post-trauma, et c'est après, au fur et à mesure de la thérapie et de l'accompagnement, qu'on va dire effectivement qu'on va travailler sur ces cognitions, ces biais cognitifs de culpabilité. Mais au tout début, il faut laisser venir les choses et surtout normaliser, c'est-à-dire dire au patient ce que vous ressentez, là, cette culpabilité, c'est normal, c'est un processus qui est normal après avoir été exposé à un événement traumatique.
Merci Lina Chamy. Alors vous évoquez la nécessité de remettre de la narration, de remettre en récit les événements. Ça peut évoquer aussi la médecine narrative. Est-ce que vous y voyez, vous, en tant qu'experte, un lien ?
Alors je connais peu la médecine narrative, mais ça rejoint encore l'idée que l'histoire du sujet, ce qu'il a vécu, sa perception des choses, lui appartient. Et ce qui est important, c'est que nous, en tant que thérapeutes, nous ne sommes pas là pour interférer avec ce récit ou venir rajouter des représentations ou même lui dire parfois ce qu'il aurait dû ressentir ou penser. Quand c'est arrivé à cet instant-là, c'est arrivé à cet instant-là avec ses émotions, avec ses pensées, avec ce vécu, ses sensations. Nous, on le prend dans son entièreté et on va travailler avec ça et on va essayer d'assouplir un peu tout ce qui est biais cognitif et hyperactivation émotionnelle. Mais on ne touche pas à ça. Et effectivement, la narration du sujet, c'est ce qui lui appartient, il ne faut pas y toucher. Et surtout, encore une fois, c'est une manière de dire, voilà, j'ai vécu ça, j'ai mis des mots là-dessus et cette histoire maintenant... Ce que je veux, c'est qu'avec cette histoire, j'aimerais travailler sur ce que j'ai pu ressentir, sur ce que j'ai pu vivre au moment où c'est arrivé. Remettre de la narration, encore une fois, c'est aussi une idée de reprendre le contrôle sur ce qui est arrivé, mais aussi d'aider le patient à lutter justement contre les phénomènes d'oubli, les trous de mémoire, les choses qui peuvent persister avec le temps. Remettre de la narration, c'est permettre au sujet de se dire, voilà, c'est arrivé et j'ai vécu ça. Et de ne pas rester dans cette déréalisation et dans cette dépersonnalisation par rapport à l'événement.
Donc ça veut dire que les psychiatres ne sont pas juges. Donc voilà, il ne faut pas attendre de vous de dire si c'est mal ou bien, j'imagine. Et puis de dire aussi que les psychiatres peut-être ne sont pas omniscients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lire à l'intérieur des patients.
Non, et heureusement, je crois, heureusement qu'on ne peut pas lire à l'intérieur des patients. Et c'est aux patients de décider, je crois, au total, de ce qu'ils peut amener et ne pas amener en entretien. On a des patients qu'on peut suivre pendant 3-4 ans et qui un jour nous révèlent quelque chose. Il faut, c'est le timing du patient et on respecte ce timing-là. On ne va jamais forcer les choses et on ne va jamais essayer de rentrer dans la tête de quelqu'un. Et effectivement, nous ne sommes pas omniscients, nous sommes des êtres humains, comme eux d'ailleurs, avec nos propres projections. L'idée, c'est de rester toujours à l'écoute de soi, toujours connecté à ce qui se passe en soi, parce qu'il se passe aussi des choses en nous en tant que thérapeute, et de toujours protéger le patient de ce qui peut se passer en soi si ça peut porter préjudice à la thérapie.
Merci Lina Chamy. Alors cette émission a déjà débordé un petit peu. Quel sera votre mot de la fin ?
Eh bien le mot de la fin, c'est, je pense que je dirais à n'importe qui a le moindre doute sur un état de souffrance mentale, de ne pas attendre, de ne pas avoir honte, d'aller poser la question à des professionnels. Il y a aucun problème à appeler le CRP et dire je pense souffrir de ça et j'aimerais avoir l'avis d'un expert, tout comme on va voir d'autres experts dans d'autres problématiques, que ce soit de la santé ou autre. Et bien c'est pareil, en santé mentale il faut pas avoir peur de venir déposer ses inquiétudes et ses craintes, et nous on sera là pour les écouter et vous accompagner et vous réorienter au mieux.
Merci à vous. Alors, pour terminer cette émission, vous avez choisi une dernière pause musicale. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Oui, j'ai choisi la chanson de Francis Cabrel, Il faudra leur dire, qu'on a tous chanté, je crois, dans notre enfance à l'école. Et pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Parce que pour moi, aujourd'hui, si on veut bien prendre en charge la société, il faut commencer par l'enfance. Et que d'ailleurs, la plupart de nos patients traumatisés ont été traumatisés dans l'enfance. Et aujourd'hui, on le voit en plus avec l'actualité, l'importance d'accompagner en fait cette enfance et de remettre de la vie, du rêve, de l'espoir et toujours de leur rappeler qu'il y a des gens pour les protéger. Donc cette chanson, je trouve, vient connecter un peu à cette nécessité-là.
Merci docteur Lina Chamy. On rappelle que vous êtes psychiatre au Centre Régional du Psychotraumatisme. Cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et en podcast sur notre site radiocampustour.com. Et je me tourne vers la régie. Kessia, c'est à toi. En fait, on a un petit souci technique, donc je vais donner la parole à Kessia. Tu vas nous parler, si tu veux bien, des musiques que tu aimes bien, parce que je crois que tu es passionnée de musique aussi.
Moi, j'écoute du rap. Ce que j'aime, c'est Népal, parce que ses textes sont... Ces textes veulent dire des choses. Aussi, j'aime Josman, parce que j'aime beaucoup. Il parle de religion aussi. Et c'est pas spirituel, mais comment dire, c'est des beaux textes avec des rimes. Et voilà. Il faudra leur dire, de Francis Cabrel, choisi par notre invité, Leïna Chamy.
Qu'il y a des gens qui s'aiment, si les enfants sont tous les mêmes, alors
il faudra leur dire
les mots qu'on reçoit, c'est comme des parfums qu'on respire, il faudra leur dire
facile à faire.